coûte que coûte.
Nous sommes à votre écoute, encore faut-il parler.
Du lundi au vendredi à 12h20 sur France Inter.
À demain.
Le grand entretien, François Bunel.
C'est un jeune professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale. Ses travaux exploitent les méthodes de l'imagerie cérébrale et portent notamment sur les neurones de la lecture. Stanislas Dehaene sera ce soir l'invité du grand entretien.
Le grand entretien, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 17h.
France Inter, la différence.
Vous écoutez France Inter, il est 15h04, Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Salut Daniel et les AMG, on recherche des acteurs pour participer à un film qui se tourne actuellement à Morteau-la-Saucisse, dans le Doubs. Un lycée se soulève contre des suppressions de sections menées par un recteur zélé muet. La résistance prend forme et s'organise.
90 élèves et deux sections sacrifiées d'entrée. 7 profs sur le carreau au premier acte. Un recteur qui croit être à la tête d'une fabrique de conserves qu'il faut restructurer pour en améliorer la rentabilité.
Et bientôt, l'épisode 2. Tous ceux qui nous entendent rentrent en résistance. Profs, parents, citoyens, contre les décisions arbitraires et budgétaires de tous les recteurs de France. Suivez l'info sur http://mortoresistance.overblog.com.
Bonjour à tous les AMG, là. Je voulais vous donner des petites infos au sujet de l'usine Honeywell de Condé-sur-Noireau. Alors ce matin avaient lieu les mesures sociales proposées par un groupe qui fait 1,6 milliard de dollars de bénéfices par an. Ben, ces personnes-là se sont permis de nous proposer 1100 euros d'indemnité par année d'ancienneté. C'est une véritable provocation, faut vraiment pas se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est déjà des gens qui ont été victimes de l'amiante, donc là vraiment c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Salut Daniel, c'est juste un petit cri du matin, un petit cri du cœur avant de reprendre la route de l'écriture et des mots. Voilà, moi je refuse de vivre dans un pays soumis, vassalisé, cassé, conquis. Un pays de Disneyland, de Lugeland, de No Man's Land, de Morland. Je refuse la haine, l'exclusion, la ségrégation, la soumission, la démission, l'expulsion. Je refuse les ruines, les combines, l'intérim. Je refuse l'Europe du fric et de la trique. Je refuse de léguer à mon enfant un avenir de décombres, de tôles rouillées, de portes fermées, entre l'errance, l'espoir d'une vague saison et le petit boulot à 3 mois d'espérance de vie. Je refuse que mon pays devienne un désert de friches, d'artifices, de cicatrices, un parking de chômeurs au pied d'une montagne de luxe, le royaume de la triche, du temporaire, du précaire et de la mort en blanc. Je refuse l'avenir à tiers-temps. J'aime la dignité, la liberté, la solidarité. J'aime la vie. C'était Michel Etiévant de Savoie.
Ouais, monsieur Mermet, il n'y a plus de doute, vous êtes vraiment un socialiste, hein. Une semaine, vous allez défendre des consommateurs pour qu'ils aient des prix bas, et la semaine d'après, vous êtes en train de défendre les pauvres gens qui fabriquent les produits pour ceux que vous défendiez la semaine d'avant. Et ben ça, c'est du vrai socialisme, de la vraie démagogie. Au revoir.
Oui, j'entends des auditeurs se plaindre sur le répondeur du manque de pluralité, du parti pris des émissions de Daniel Mermet. Moi, je m'étonne de cette rhétorique qui se veut pesée, mesurée, objective même, dans son ton et sa demande. Moi, dans l'univers des médias où la doxa libérale se libère à l'envi sans une once de divergence de vue, je trouve que cet espace d'information dissidente, c'est un vrai plaisir et qu'il ne s'agirait pas de polluer avec une pseudo-diversité qui en fait réclame tout simplement une vision conservatrice du monde. Oui, l'anti-France est chez Mermet et les super Dupont n'ont qu'à bien se tenir ou changer de fréquence pendant une heure. C'est ça la liberté. C'est Noël de Nantes.
Pour se prétendre opposant farouche des orientations économiques de la droite, mieux vaut-il, quand on est député de gauche, s'abstenir ou rejeter ce mardi 21 février à l'Assemblée nationale le mécanisme européen de stabilité, un fonds monétaire international à la sauce européenne. En 2012, le peuple de gauche choisira-t-il une politique de relance financée directement par la Banque Centrale Européenne, ou bien poursuivra-t-il avec ce Fonds Monétaire Européen, conditionnant les prêts aux États par des plans d'ajustement et de rigueur budgétaire. Régis de Nîmes.
Bonjour l'équipe de là-bas où je suis. Alors je ne sais pas, je n'ai toujours pas compris. Est-ce que les ciganes hongrois ont mangé quelqu'un ou pas? Mais en tout cas, le Fonds monétaire international va manger tous les Hongrois avec les Tziganes inclus. Donc, ils ont beau faire des réformes au rythme des escargots. C'est bien joli, c'était très beau, les objecteurs de croissance, c'est toujours très beau. Sauf que le capitalisme financier n'attend pas. Il se développe à un tel rythme que pour cela, il faut des jeunes. Et pas des vieux qui pantouflent, d'accord? Voilà, c'est Maria. Salut.
Merci, ben, nous voilà informés, nous voilà amusés, nous voilà secoués, comme chaque jour, par vos messages, ceux que vous laissez dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis. Aujourd'hui, on continue notre voyage en Hongrie, la Hongrie en marche arrière. Vous vous souvenez de ce qu'on disait au début 1956, les tanks, 2012, les banques. Alors les banques, aujourd'hui, on comprend, ah bah oui, on a compris, la dictature de la finance, la tyrannie du capitalisme ultralibéral, etc. On voit très très bien ce que ça veut dire, 2012, les banques, surtout si l'on est hongrois. Mais 1956, les tanks, ça veut dire quoi? Alors, bien sûr que les Hongrois savent de quoi ils retournent, mais je suis pas sûr que ce soit le cas de la majorité de nos auditeurs. Eh oui, les amis, le temps passe, et on oublie cette date de 1956 qui était un moment crucial, non seulement de l'histoire de la Hongrie, non seulement de l'histoire du bloc communiste, mais on peut dire c'est un moment charnière qui a fait basculer probablement l'histoire. C'est ce qui s'est passé au cours de ces 17 jours, 16 ou 17 jours, 17 jours qui ont changé le monde, bien plus que le monde communiste lui-même. C'est la seule révolte contre un système totalitaire. Il y a eu d'autres systèmes totalitaires, il y a eu le système fasciste, nazi, tout ce que vous voulez. C'est la seule qui soit manifestée et qui est aboutie, mais bien plus tard, bien plus tard, avec la chute du mur de Berlin en 89. Ça a été un séisme complet, cette insurrection populaire à Budapest qui se sentait victorieuse dans sa demande d'ouverture, de réforme, et qui brusquement a été matée, écrasée à partir du 4 novembre 1956 par cette marée de chars soviétiques. Il y a deux symboles qui résument ces 17 jours. C'est la chute de la statue de Staline. Ça, c'est une statue énorme qui était au milieu de Budapest, qui faisait 10 mètres de haut et que les habitants ont fait tomber. Il restait les bottes restaient, et dans l'une des bottes, il y a une photo célèbre qui représente, comme un peu comme dans un pot de fleurs, le drapeau hongrois, dont le centre, avec la faucille et le marteau, a été arraché. Ça, c'est un symbole. Et puis l'autre symbole, évidemment, c'est ces chars qui entrent dans la ville et qui tirent dans le peuple. Ça a été un séisme dans le monde entier. Ça a été un séisme notamment en France, avec une division terrible dans la gauche française. Il y a un texte superbe, une interview de Jean-Paul Sartre dans les jours qui ont suivi, qu'il a donné à l'Express et qui raconte cette rupture et l'extrême lucidité de Sartre à ce moment-là. Bref, un moment très fort de notre histoire avec toutes les conséquences que j'évoque. Donc c'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui dans la basse, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Mobilisation générale à Angoulême, samedi 25, de 14h à 17h devant l'hôtel de ville. Le CAC 16, Comité d'audit citoyen de la dette, vous invite à casser les taux d'intérêt insupportables des emprunts toxiques de la ville. Le Chamboultou permettra de se défouler et vous pourrez signer la pétition demandant au maire de ne payer les remboursements qu'au taux le plus juste. Soyons nombreux.
Bonjour Daniel, j'appelle pour rendre hommage à mon papy qui nous a quittés la semaine dernière. C'était un gars formidable, Maurice Pécéas, un AMG, un PMG, un papy modeste et génial, qui considérait que statut ouvrier, c'est le plus beau. Il l'aurait défendu contre tout. En 68, il avait soudé les portails de son usine à Lyon pour pas être délogé par les forces de l'ordre. Ça lui avait coûté sa place. Mais quelle avancée sociale pour ses enfants à l'époque. Aujourd'hui, il aurait voulu que les choses bougent et que l'humain repasse devant la finance. C'était Gabriel de Lyon.
Bonjour les AMG d'ici et d'ailleurs, et surtout du Calvados. Ici, c'est Yann Donewell. Donc voilà, mon collègue Thierry vous a téléphoné tout à l'heure. Je vais laisser un message. Il a oublié de vous dire qu'on est en train de séquestrer la direction. On fera un point détaillé au fur et à mesure de la journée. Ok, salut.
Bonjour Daniel. Juste une grande nouvelle pour prévenir tout le monde que l'excellente pièce de Frédéric Lordon, sa comédie financière en alexandrin, se jouera sur Paris les 4 et 5 mars à Confluence, le 13 mars à l'Espace Gendarme, le 24 mars, le 31 mars, le 7 avril et le 14 avril au Métallo. Et le 23 avril, le 30 avril et le 14 mai au théâtre Sylvia Montfort. Voilà, donc venez tous voir cette comédie financière en alexandrin. Merci beaucoup. Au revoir.
Aucun Hongrois ne peut oublier des scènes comme celle-ci. 85 hommes, femmes et enfants viennent d'être massacrés. Ils étaient venus simplement, non armés, présenter une pétition au quartier général communiste de leur ville. Fuyant pour échapper aux représailles, un grand exode de réfugiés commença. Plus de 170 000. Jour et nuit, des réfugiés purent s'enfuir pendant que des noyaux de partisans défiaient encore leurs oppresseurs. Mais ce chapitre de la résistance hongroise est loin d'être terminé malgré les efforts soviétiques pour l'écraser. Car malgré trahison et l'oppression, la résistance, comme la liberté, vit toujours dans le cœur des hommes.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Antoine Chao. La Hongrie en marche arrière.
Flight number 2, arriving from New York.
Là, à Budapest, on arrive au musée de la terreur. Musée de la terreur, et là pour nous accueillir, il y a une sculpture assez engageante qui représente des chaînes. Des chaînes, des grosses chaînes, accrochées verticalement, un mur de chaînes, un mur de fer de chaînes. Et puis là, sur le rebord du bâtiment, des portraits, des photos en noir et blanc, avec des noms dans des cadres ovales, des petits cadres ovales, avec des bougies comme un reposoir en hommage à mort en 1959.
Des victimes de la dictature communiste.
Le soulèvement de Budapest, c'était 1956. Et ça, c'est dans la plus grande avenue de... On est dans la plus grande avenue de Budapest, la plus large. Un peu les Champs-Élysées de Budapest. Enfin, ça ressemble plutôt à l'avenue Foch, une grande avenue comme ça, très large, qui conduit au centre de la ville. Allez, on entre. Troisième, c'est le restaurant panoramique de la Maison de la Terreur. On monte au second étage et les murs sont tapissés de gravures en noir et blanc.
Alors quand même, il y a un char, hein, il y a un char russe au milieu, Daniel.
C'est le char soviétique par excellence qui est rentré en 56 dans Budapest.
Alors là, il y a des téléphones en bakélite, on peut décrocher, et il y a des archives sonores. Enfin,
Derrière l'hôtel Duna, entre l'hôtel Duna et le Danube, voici les chars russes qui passent. Ils sont environ à une trentaine de mètres de moi. La tourelle n'a pas l'air de se diriger vers moi. Autrement, évidemment, je me planquerai en vitesse. Les chars passent doucement. Ils viennent s'arrêter.
Alors, ils avancent vers nous en ce moment, tourelle braquée vers le l'hôtel Duna. Ils viennent tirer une rafale de mitrailleuse.
On essaye de voir en se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux.
Un deuxième char le suit de près.
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Oui, je viens. Il tire à la mitrailleuse, vous entendez les balles qui claquent contre le mur.
Un troisième char arrive.
Ah oui? Coup de camouflage. Un troisième char arrive, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous entendez le bruit des chars, les gens dans l'hôtel sortent doucement. Quatrième char, et ils tirent. En quelle direction? Ben, pas sur nous alors. Ils viennent tourner sa tourelle, c'est vers nous? Il vaut mieux se baisser, oui je crois. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Voilà. Sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone.
Voilà, c'était le 4 novembre 1956, deux journalistes, Alain de Sédouis et André Teillex, qui travaillaient pour la radio suisse romande. Eux s'en sont sortis, à la différence de nos deux confrères, Rémi Hochelick et Marie Colvin, qui ont été tués, comme vous le savez, en Syrie. Un hommage, aux journalistes, aux photojournalistes aussi, qui à cette époque, en 1956, au cours de ces, encore une fois, 16-17 jours qu'a duré cette insurrection populaire, se sont illustrés à l'époque, effectivement, racontaient beaucoup les choses avec des photos, avec des textes, et ça a été extrêmement abondant, la production de la presse, j'allais dire médiatique, mais on disait la presse à l'époque, qui ont rapporté ce qui s'est passé au cours de ces journées. Je vais essayer de rapidement situer un peu ce octobre-novembre 1956. Il faut rappeler 1944, la Hongrie occupée par l'Allemagne, l'armée rouge qui libère la Hongrie, l'URSS qui va bloquer, dominer complètement la Hongrie et mettre au gouvernement un Staline version locale, version hongroise, Rákosi, Matthias Rákosi. 1953, souvenez-vous, mais oui, vous étiez en deuil, mort de Staline. 1956, c'est le fameux rapport Khrouchtchev qui déclenche la déstalinisation. Le rapport dénonce les déportations massives, les arrestations arbitraires, etc. Et ce rapport Khrouchtchev donne de l'espoir aux pays qui sont sous la botte soviétique. C'est le cas de la Pologne. Et en juin 1956 à Poznan, les ouvriers se mobilisent, réclament des réformes et la répression entraîne des émeutes. Mais finalement, les manifestants, les émeutiers obtiennent la mise en place d'un réformiste qui est Gomulka. Et on sait les liens très proches d'amitié qui existent entre la Hongrie et la Pologne. Et donc ça donne de l'espoir aussi aux Hongrois qui sont sous la botte. C'est des années terribles. Entre 49 et 56, vraiment, les Hongrois en bavent sous la botte de leur Staline local. Alors, des conseils ouvriers se constituent, le milieu intellectuel entre en ébullition, et donc le 23 octobre 1956, émeute dans la ville. C'est un mélange d'euphorie, de confusion, de répression, l'interprétation qui est donnée tout de suite, c'est pour le journal L'Humanité, c'est les fascistes et les réactionnaires, évidemment, qui entendent reprendre le pouvoir. Et le pouvoir doit être absolument sans faille. Et puis pour le camp de la liberté, c'est-à-dire le camp capitaliste, eh bien voilà, c'est la révolte du monde. Il faut bien imaginer se remettre dans cette époque qui s'éloigne, qui fut l'époque de la guerre froide, avec ces deux blocs qui s'affrontaient et qui constituaient la vision qu'on pouvait avoir du monde, de la politique, etc. Le 1er novembre. Donc après ces euphorie, confusion, répression, Imre Nagy, je vais prononcer à la française, hein, Imre Nagy, qui est un leader communiste réformateur et qui avait été écarté en 1955 du pouvoir, prend le pouvoir, forme un nouveau gouvernement. On est le 1er novembre. On pense que les soviétiques vont accepter de négocier après ces émeutes contre le pouvoir hongrois, mais l'armée hongroise est en partie ralliée aux émeutes. On pense qu'on va vers des négociations, vers un arrangement avec le maître soviétique. Eh ben pas du tout, parce que le 4 novembre, les chars soviétiques entrent dans Budapest, tire dans la foule, tire dans le tas, et ça se soldera par 2500 à 3000 morts. 700 soviétiques seront tués parce qu'il y a des affrontements extrêmement violents. Les émeutiers ne se laissent pas faire. Il y a des batailles de rue, évidemment, c'est très inégal, mais il y a une résistance, mais il y a des bagarres, et 200 000 Hongrois sortiront du pays via l'Autriche pour la plupart. Après ça, eh bien l'ordre règne à nouveau. Ce sera János Kádár qui prendra le pouvoir, et puis l'histoire continuera. Mais cet épisode aura des conséquences dans le monde entier, en France notamment, mais pas seulement. Ce sera la révélation de la vraie nature du stalinisme, et une secousse dans le monde communiste, je le disais, qui finira par la chute du mur en 1989. C'est notre thème du jour, c'est jusqu'à 16h, c'est là-bas, si j'y suis.
Oi, Unkari, sun vapautes on jäänyt aikain taa. Sun loisto säipyi usvaan hämärään. Sua idän tähden raskas kahle painaa rasittaa. Sun kansas silmis kyynel emmänään. Sä tahdoit olla veljes kansa aina. Siksi toivo oota aina paremmau. Vain luojas luota Unkari, hän antaa vapauden. Iloa soi taas viulusi, sävenet tsarraksen. Näet pustan tytön tanssivan ja riemastut sä kun.
Parti communiste d'obédience russe, l'économie de la Hongrie fut exploitée au bénéfice de l'Union soviétique. Cette situation ajoutait à la misère du peuple, car si la Hongrie contribuait par ses ressources au relèvement de l'URSS, elle n'en recevait que peu ou rien en retour. Son commerce était à sens unique.
et il n'y avait aucune possibilité d'accepter une aide venant d'autres pays. Alors, le 23 octobre 1956, une démonstration surprenante, spontanée, s'éleva pour la liberté. La jeunesse ouvrière, des étudiants, des employés, défilèrent en bon ordre dans Budapest. Ils présentaient 14 revendications qui, si le gouvernement les avait acceptées, auraient rendu leur vie supportable. En premier lieu, ils demandaient le retrait des forces soviétiques, la suppression de la police secrète et une égalité économique avec l'Union soviétique. Ce fut une démonstration pacifique jusqu'au moment où la police, puis l'armée rouge, firent feu sur les jeunes hongrois. Désespéré, le peuple riposta et le monde sait comment ces combattants hongrois de la liberté se défendirent avec des armes de fortune contre les troupes soviétiques. Le dimanche matin, le 4 novembre, des milliers de tanks soviétiques, appuyés par une vingtaine de divisions, étaient lancés dans un assaut massif contre le peuple hongrois.
Je suis historien, je suis maître de conférence à l'Université de Budapest, donc le département d'histoire moderne et contemporaine. Et je suis en plus donc ici le président de cette association, Kossuth Klub, donc Club Kossuth, fondée début janvier 1955. Donc le club avait un rôle très, très important dans la préparation de la révolution, mais ça je mettrai entre guillemets, je m'excuse parce que c'est pas évident que c'était une révolution. Mais
1956, alors parlez-nous de 1956, parce que ça c'est une date majeure, charnière, évidemment bien au-delà de l'histoire de la Hongrie, bien au-delà même de l'histoire du communisme, c'est carrément une date dans l'histoire du XXe siècle.
La Hongrie était seulement donc une décennie après ce grand bouleversement, donc bien sûr la guerre, mais aussi cette période de renouvellement du pays. Donc Budapest était en ruine, donc c'était inimaginable. Donc tous les bâtiments étaient détruits par le siège aussi des troupes soviétiques. Oui. Et donc des très durs staliniens, donc 50, 51, 52, surtout il y avait 3 années vraiment très très dures de la guerre froide, où la population était en situation de vraiment très très difficile. Hein. Tout ce que vous pouvez imaginer, bien sûr, c'était vraiment une dictature très sévère. Donc il y avait beaucoup de forces en contradiction dans une situation. En juin 1953, il y avait une résolution du parti des travailleurs hongrois. C'était le parti communiste, bon. Il y a un remodelage, enfin, du gouvernement hongrois dans le cadre de la déstalinisation. Donc Rákosi perd et il est remplacé par Imre Nagy. Hein?
Imre Nagy.
Imre Nagy en hongrois, donc il est devenu premier ministre. Et c'est dans le cadre de cette ouverture que ce club a été fondé, donc au début de 1955.
C'était destiné à qui ici? Les écrivains, les élites intellectuelles?
Voilà, oui, absolument, les élites intellectuelles. Mais il faut quand même savoir que bon, ça durait 1 an et demie. Parce que ensuite, il y avait un changement, donc, pro-stalinien, début 56, c'est-à-dire Rákosi a repris le pouvoir, parce que dans le parti soviétique, il y avait également une grande lutte interne. Et donc, il fallait attendre le 20e congrès du PCUS, hein, donc, en février 56. Finalement, ce sont des communistes réformateurs qui ont démarré les événements d'octobre 56.
Et quelle réforme voulait-il?
C'était des réformes de déstalinisation. Hein. Il ne s'agissait pas, bien sûr, de restaurer le capitalisme dont on avait vraiment le souvenir encore très vif. Le bilan du capitalisme d'entre-guerre était encore très vivant dans la société. C'était une lutte de libération, c'est vrai, mais ne voulait pas restaurer le capitalisme. C'était pas un mouvement antisocialiste. Hein. Voulait tout simplement donc faire la souveraineté de la Hongrie sans la soumission à Moscou. Hein. C'est pas la même chose, bien sûr.
On a présenté le mouvement d'octobre 56 aussi comme la revanche de l'extrême droite hongroise.
Il y avait ça aussi, donc bien sûr, donc c'est difficile de parler de 56 parce que finalement ça ne durait que 10 jours. C'est 23 octobre jusqu'à 4 novembre. La plus grande valeur dans ces événements, c'est la constitution des conseils ouvriers, dont on ne parle pas aujourd'hui. Donc c'est ce qui prouve qu'il y avait donc la classe ouvrière hongroise à l'époque était vraiment capable et prête de s'organiser et de prendre en main son sort. Donc les premiers conseils ouvriers étaient même fondés avant 23, déjà en 21-22. Donc il y avait des conseils ouvriers qui se constituaient à Budapest.
Les conseils ouvriers disaient non à l'occupation soviétique, oui à un socialisme hongrois.
C'était justement ça, absolument ça. Donc ils ne voulaient pas, donc c'est pas vrai. Pourquoi on pourrait imaginer que la classe ouvrière voudrait que les capitalistes, les propriétaires des usines reviennent? Ça n'a pas de sens. Ils voulaient, bien sûr, transformer la propriété d'État en propriété sociale, c'est-à-dire propriété ouvrière proprement dite. C'est le socialisme. Hein.
Ça, c'était un mouvement important.
C'était un mouvement très, très important. Et même qui durait après l'invasion soviétique, après donc le 4 novembre. D'abord, il faut voir que c'était très lié à la révolte ouvrière polonaise, hein, en juillet, donc à Poznan. La classe ouvrière et les travailleurs hongrois, donc surtout l'intelligentsia, a réagi aux événements polonais.
Voilà. Victor Lugosic, nous rencontrons dans ce club Kossuth à Budapest, est un endroit mythique où des réunions eurent lieu à l'époque. Les intellectuels se réunissaient là, forts de la déstalinisation, forts de ce qui s'est passé en Pologne, et aussi forts de cette aspiration permanente depuis fort longtemps des Hongrois à leur souveraineté. Il y avait cet élément de souveraineté, oui, un certain nationalisme était sans doute très important dans les motivations des émeutiers, des insurgés. Il y avait la volonté d'un autre socialisme, d'un autre communisme à visage humain, plus ouvert, etc. Personnalisé par la figure d'Imre Nagy, sans aucun doute. Et puis, il y avait dans les émeutiers des nostalgiques du temps d'Orty, sans doute aussi des éléments venant du temps des croix fléchées, c'est-à-dire les nazis hongrois. Tout ça devait être réuni, mais majoritairement, à en croire les historiens les plus éminents, et le plus éminent, c'est François Fechteux. Je vous ai parlé de ce livre formidable qui s'appelle « La tragédie hongroise », et pour quelqu'un comme ça, qui n'était pas un stalinien du tout, mais qui a connu parfaitement et les acteurs et tous les protagonistes de cette histoire, il s'agissait essentiellement, dit-il, d'une révolte de nature socialiste, mais d'un autre socialisme. Et on a vu d'autres révoltes comme ça tout au cours de cette histoire, mais celle-ci a été la plus violente et celle qui aura le plus de conséquences dans l'histoire, encore une fois, non seulement de la Hongrie, mais du monde.
Radio Budapest, 4 novembre 1956. Ceci est un appel venant de Hongrie. Depuis le dernier émetteur encore en fonction. Tôt ce matin, les troupes soviétiques ont lancé une attaque sur la Hongrie. Nous vous demandons de nous envoyer une aide immédiate par parachute. Pour l'amour de Dieu et de la liberté, aidez la Hongrie.
Racontez-moi ces 10 jours.
Il y avait donc les grands débats du cercle Petőfi. Donc à partir du 20e congrès du PCU, c'est-à-dire de printemps. Donc les premiers grands débats du cercle Petőfi, qui était un cercle intellectuel très important, ont eu lieu ici dans ce bâtiment. Ça commençait d'ailleurs avec un débat sur la littérature yougoslave. Ça commençait avec... Ensuite venaient des grands débats des différentes spécialités. Donc il y avait des débats des historiens, il y avait des débats des économistes, des débats des philosophes, des débats des journalistes. Il y avait pas mal de débats. Donc les premiers grands débats ont eu lieu ici dans le Kossuth Club, hein, animés par le cercle Petőfi, qui était d'ailleurs le cercle de la jeunesse communiste. Hein. Donc il y avait vraiment un grand bouleversement intellectuel, donc à partir du printemps et en été aussi. Donc il y avait une grande manif, pas anticommuniste, mais tout simplement antistalinienne, donc de réforme, pro-réforme.
Le 23
octobre.
Qui était autorisé. Où on avait les étudiants, mais on avait aussi les conseils ouvriers.
Oui, oui, il y avait déjà les premiers conseils ouvriers. Alors, les deux choses marchaient parallèlement. Les deux n'avaient rien à voir avec l'une l'autre. Ça a commencé avec cette grande manifestation le 23 octobre. C'était les étudiants. Donc, il y avait une grande manifestation, mais qui ensuite, même le soir, la manifestation a continué dans le centre de la ville, dans la rue de la Radio Hongroise. Il y avait un détachement de l'armée, des forces de sécurité. Il y avait déjà donc des échanges de tirs à la Radio Hongroise. Donc ils voulaient occuper la Radio Hongroise. Et finalement, ils y sont arrivés. Il y avait des émissions aussi, c'est-à-dire que la Radio Hongroise libre a fait des émissions. Ils ont très vivement critiqué donc les stalinistes, donc Rákosi, et qui était remplacé à l'époque avec un autre staliniste qui était Guéru.
Matthias Rákosi, qui s'enorgueillissait de son communisme à la poigne de fer, était l'homme le plus détesté de la Hongrie. Il fit régner pendant 8 ans une terreur entretenue par la police secrète hongroise et soutenue par la présence de l'armée soviétique. Ainsi, la Hongrie dut-elle s'inféoder à l'empire des satellites soviétiques comme l'Albanie, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, l'Allemagne orientale. Ces satellites placés sous la domination totale de la dictature du Kremlin.
De tous ces éléments, vous dites les conseils ouvriers, les étudiants, les communistes réformateurs, de tous les éléments qui faisaient partie du soulèvement de 1956, quels étaient les éléments les plus importants? C'était l'extrême droite ou les réformateurs nationalistes?
Je crois que pendant ces 10 jours, quand même, même s'il y avait un glissement vers la droite dans les revendications. Donc, il y avait vraiment des anciens propriétaires des terres, l'Église catholique avec Mindszenty. Mais pendant ces 10 jours, dans les événements, ce qui était vraiment prépondérant, c'était les forces socialistes. Hein. Socialistes dans le sens anti-stalinien, socialistes, c'est vrai.
Actualité française, 12 décembre 1956.
Budapest lança par radio cet appel au monde du chef du gouvernement hongrois, Imre Nagy.
Les armées soviétiques ont attaqué notre pays avec l'intention d'abolir notre gouvernement hongrois, légitime et démocratique. Nos troupes sont en guerre, le gouvernement est à sa place. C'est ce que j'ai à dire au peuple de notre pays et à l'opinion publique du monde.
De la capitale dévastée, parvint par télétype ce message désespéré. Nous allons quitter nos postes. Nous allons quitter nos postes. Au revoir, amis. Au revoir, amis. Dieu sauve nos âmes.
Occupation donc de la radio, proclamation à la radio, répression.
Il n'y avait pas encore répression, donc les forces étaient en attente, même quand Imre Nagy était nommé premier ministre.
Imre Nagy, comme vous dites, et nous on prononçait Imre Nagy, c'était qui au juste? Il a eu quel rôle?
Il était déjà donc nommé par les comités centrales, donc premier ministre.
Imre Nagy était partisan de la réforme.
Il est devenu partisan de la réforme.
Il était la figure du soulèvement, la figure de la rébellion.
C'est assez contradictoire parce que lui, quand il était nommé, il était déjà considéré comme l'homme de réforme, mais ça n'empêche que lui, donc, il est parti également comme faisant partie de ce groupe des communistes de Moscou, donc en rentrant de Moscou. Lui aussi, comme tout le monde, était stalinien, mais c'est vrai qu'il a révisé donc son mode de pensée. C'est vrai que déjà en 53, donc il était la figure clé de la déstalinisation. Hein.
Et en 56, il est devenu la figure.
Il est devenu la figure clé de la déstalinisation, mais bien sûr, donc il voulait lui aussi donc garder les cadres, donc également rester d'abord dans l'alliance soviétique et garder bien sûr le socialisme. Jusqu'à la fin, donc, il est resté, même quand il était pendu, il est resté communiste, lui. Donc, il faut quand même savoir. Il s'est considéré comme vraiment qu'il a servi dans toute sa vie la cause de la classe ouvrière. Il était exécuté en 58. Il y avait une dizaine de personnes exécutées avec lui, donc qui étaient les figures clés de la révolte. Je parle pas de révolution parce que bon, il y avait en même temps contre-révolution, c'est-à-dire il y avait beaucoup de tendances dans ces événements, mais on peut pas discuter, c'était une révolte. Et même je dirais que c'était une révolte, donc, de libération contre l'occupation soviétique.
Voici Imre Nagy. On le voit ici, chef du gouvernement hongrois. Il est mort aujourd'hui. Condamné à mort par un tribunal secret. Exécuté après un procès à huis clos dont le monde n'a appris l'existence qu'après l'exécution. On n'a pas oublié le drame de Budapest. Ce drame d'un peuple fier qui, ligoté depuis 12 ans, essaie de retrouver le son de certains mots. Liberté, indépendance. Drapeau, manifestation, oriflamme. Imre Nagy redevient chef du gouvernement, incline vers une libéralisation du régime conforme aux vœux du peuple. Et puis, c'est l'avalanche des chars soviétiques. Budapest criblé de blessures. Et dans le silence des villes mortes, un peuple qui rentre dans le silence. La destruction de Budapest a sonné le glas de la liberté hongroise. Mais cette destruction et cette fin avaient besoin d'un épilogue. C'est fait aujourd'hui. Imre Nagy a été exécuté.
Donc, dans un premier temps, c'est les forces de la police et des détachements de l'armée hongroise qui répriment la rébellion. Et puis, enfin, c'est les chars soviétiques qui arrivent. C'est les fameuses images des chars soviétiques qui arrivent le 4 novembre. Vous étiez gamin ?
J'avais 4 ans. Et je me souviens des chars, j'ai des images.
Il y avait des bases soviétiques dans la région ?
Bien sûr, tout à fait, absolument. Il y avait des bases soviétiques. Hein.
Et qui ont tiré dans la foule ?
Tout à fait, oui, bien sûr. Parce qu'il y avait de résistance armée contre les soviétiques, donc c'est pour ça qu'il y a de véritables luttes armées, de
résistance.
Pour les révoltés, il n'y avait pas un état-major centralisé, mais il y avait des groupes de résistance un peu autonomes, qui avaient des relations entre elles. Il faut quand même savoir, donc, ce qui reste quand même une sorte d'énigme aussi pour les chercheurs et pour tout le monde, que le parti a réussi à gagner le soutien une grande partie de la population hongroise, 6 mois après la révolte. Hein. On ne sait pas comment, donc pourquoi. Finalement, donc c'est ce qui prouve que finalement, dans la majorité de la population, il n'y avait pas quand même un soutien très actif ou très réfléchi de ces révoltes.
Alors, conséquences, répercussions, je disais tout à l'heure, dans le monde entier, mais notamment en France, en 1956, le Parti communiste français était extrêmement puissant. Il y avait beaucoup d'électeurs et le journal L'Humanité, l'organe central du Parti communiste, était extrêmement puissant. Et là, nos amis de l'UMA d'aujourd'hui nous ont envoyé des facsimilés des numéros de L'Humanité de l'époque. Et là, j'ai une photo d'un papier d'André Steele, un certain André Steele, qui sévissait dans ce journal à l'époque, et avec un titre qui dit « Budapest recommence à sourire ». Évidemment, ceux qui qui les insurgés donc, que nous évoquons avec Victor Lugosier étaient vus comme des fascistes et face auxquels il fallait aucune espèce de faiblesse. Mais j'évoquais tout à l'heure l'interview de Jean-Paul Sartre du 9 novembre 1956. Vous voyez, quelques jours après, dans le magazine L'Express de l'époque, et Sartre disait le Parti communiste, il parlait du Parti communiste français, après avoir mérité le titre admirable de Parti des fusillés, peut recevoir aujourd'hui celui du Parti des fusilleurs. Il était extrêmement dur et cassant avec non pas les militants du Parti communiste ou ceux qui votaient communistes à l'époque, mais pour les dirigeants, évidemment, et un nombre d'intellectuels qui, au mieux, se taisaient, et au plus, et ils étaient nombreux, à approuver la ligne du Parti communiste français. Ça a été une faille dans la vie intellectuelle de l'époque, qui était extrêmement, fervente, on veut dire, voilà, c'est le mot qui me traverse l'esprit, fervente. Des gens comme Claude Roy, je me souviens, ou comme Roger Vaillant, qui étaient des figures du Parti communiste, ont rompu avec le Parti communiste. Et c'est une époque charnière où il était à ce moment-là évident de ce qu'était le stalinisme, ce qui se passait en URSS, d'autant plus que la déstalinisation, le rapport Khrouchtchev permettait de le savoir. Il faut rappeler que c'est à la suite de cette déstalinisation voulue et exprimée par le rapport de Khrouchtchev, que quelqu'un comme Solzhenitsyn a pu écrire, encouragé par Khrouchtchev, sur les goulags. Une chose que des nouveaux philosophes, soi-disant, ont découvert très tardivement, à la fin des années 70, eh bien, à l'époque, tout le monde pouvait le savoir et prendre position, voilà, en son âme et conscience. On est toujours à Budapest avec Victor Lugosi. Alors, évidemment, on se demande que s'est-il passé après.
Kadar a prouvé dans la majorité de la population qu'il était vraiment un très bon patriote. C'est ce qui explique que la Hongrie était devenue vraiment communisme, goulash, etc.
Le socialisme du goulash, oui. Ouais. Et pourquoi on dit ça? Parce que c'était plus souple, les gens vivaient mieux.
Le régime a laissé tranquille les gens, c'est-à-dire donc n'immiscite pas dans la vie privée des gens. Il n'y avait pas les libertés politiques classiques, donc on ne pouvait pas manifester, donc on ne pouvait pas très légèrement lire n'importe quoi. Donc si, en privé, oui, donc personne dans la police ne venait pas dans l'appartement de demander ce que vous lisez. Mais il y avait des limites en ce qui concerne dans l'accès des journaux, etc. Donc,
mais est-ce que vous aviez comme un RDA ou DDR, mais est-ce que vous aviez une Stasi, est-ce que vous aviez de la délation?
Ça existait, non, bien sûr, mais ce n'était pas visible, ce n'était pas très, très fort.
Avec tous les avantages bien connus sur le plan de la santé, de l'éducation, des prestations sociales, sécurité sociale, oui. Retraite, etc., c'était parfaitement assuré pour tous, plus le plein emploi.
Bien sûr. Mais aussi, par exemple, le respect des différentes croyances. Mes parents n'avaient pas peur de m'envoyer à la messe. Hein. Non seulement cela, mais ce qui est entre autres très important, c'est l'agriculture hongroise qui était vraiment une réussite pour nourrir le peuple, si vous voulez. Une grande réussite, même je dirais, mondiale. Donc il y avait, dans les années 70, par exemple, dans le monde, il n'y avait que deux agricultures qui étaient suffisitaires, c'est-à-dire qu'elles avaient subventionné. Il était l'agriculture hongroise et nouvelle-zélandaise. Il y avait deux. Donc il y avait toute une structure très bien conçue, d'ailleurs assez pragmatiquement, pas que théoriquement. Il y avait des grands théoriciens aussi de l'agriculture. Donc il y avait vraiment des universités vraiment très sophistiquées qui avaient des relations internationales déjà à l'époque, avec l'Occident, avec la France par exemple. Ensuite, derrière, il y avait des grandes fermes d'État, hein, unités d'État, qui ont utilisé, employé donc les acquis des recherches dans des systèmes de cochons, de maïs, de poulets, etc. Et ensuite, c'est eux qui étaient responsables, qui avaient la licence de la technologie pour envoyer ensuite aux coopératives. Et au bas du système, donc à l'échelle du système, donc il y avait les lopins privés des paysans. Donc il y avait verticalement intégré donc un système très important pour l'exportation du pays, mais ce qui est encore plus important, qui donnait le plein emploi à la campagne. Maintenant, ce que vous constatez, si vous allez dans le nord de la Hongrie, oui, effectivement, déjà c'est le tiers-monde, il y a famine en Hongrie.
Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Hongrois se replient vers l'extrême droite au lieu de se référer à ce que vous venez d'évoquer? Pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, on va revenir au kadarisme, faisons le bilan du kadarisme, ce que vous êtes en train de faire, à grands traits, vous dites, voilà, on manquait de liberté, etc., etc., sur bien des points, mais il y avait l'emploi, la santé, tout ça, c'était garanti, qui semble aujourd'hui des choses que nous envions et qui semblent impossibles aujourd'hui. Quitte à revenir en arrière, puisque vous êtes en train de revenir en arrière, pourquoi est-ce que vous tombez sur la case fasciste au lieu de tomber sur la case socialiste?
Mais justement, c'est ce qui est plus compliqué, parce que justement, il y a une très grande nostalgie à l'égard du kadarisme, mais qui prend une forme de droite. C'est ce qui est contradictoire, mais c'est finalement la nostalgie kadariste qui travaille dans ce tournement vers la droite. Donc c'est pas pourquoi. Donc c'est un anticapitalisme qui revient du socialisme quand même. Mais l'anticapitalisme a une version de gauche et une version de droite. La version de droite, finalement, en perspective, c'est le fascisme. Derrière le fascisme, donc le soutien populaire en Allemagne aussi, bon, c'était quand même les ouvriers, les travailleurs qui soutenaient Hitler. Et le parti nazi. Et le parti communiste de l'autre côté aussi. Donc, il n'y a pas de contradiction dans le sens. Donc, l'anticapitalisme peut revêtir aussi une forme de droite.
Et c'est pas évident pour les Français et on est content que vous nous donniez cette leçon.
Oui, c'est comme ça, hein. Oui, donc,
Ouais, ça, c'est une bonne leçon à ramener en France. Non, parce que pour les Français, non. L'anticapitalisme est de gauche. Ils n'ont pas encore intégré le constat que l'anticapitalisme peut être d'extrême droite.
Oui, mais bien sûr, donc c'est la leçon de l'histoire européenne, donc bien sûr. Partout dans la région, c'est le même cas. Donc finalement, on peut voir que finalement en Europe et en général l'Europe centrale, l'Europe du centre, est la partie du monde la plus réactionnaire. Mais ça n'empêche que donc comme en Amérique latine, donc il y a aussi un anticapitalisme très fort de gauche. Ici aussi, il y a un anticapitalisme de droite. C'est notre malchance. C'est anticapitaliste de droite, mais en même temps néoconservateur. C'est ce qui est contradictoire. Donc finalement, ce qu'il exécute. Maintenant, on dit à des négociations avec FMI. Mais quand même, il faut voir ce qu'ils ont fait jusqu'ici. C'était pas contre la politique FMI. C'était vraiment des restrictions néolibérales, néoconservatrices même, donc de style américain, ce qu'ils ont fait. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui s'inscrivent dans la politique néolibérale des 20, 25, 30 dernières années. Donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est une politique néoconservatrice et nationaliste, les deux ensemble.
Budapest 1956. Merci à Victor Lugosi pour cette explication, éclairage, et on retiendra cette phrase, l'anticapitalisme a une version de gauche et une version de droite. C'est peut-être là une clé pour comprendre ce qui se passe en Hongrie, et chez nous aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Merci à Victor Lugosi, merci aussi à Esther Goldnoffer, Judith Morva, merci. Régine Colombo de la documentation du journal Luma qui nous a adressé ses documents. Le montage c'est Grégory Salomonovitch et Antoine Chao. Et merci aussi à Catherine Aurel, historienne spécialiste de l'Europe centrale, qui nous a accordé un entretien que vous retrouverez sur notre site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, le bouquin que j'ai évoqué à plusieurs reprises, de François Fecheteux, j'espère que je le prononce bien, c'est avec un tréma sur le haut, Fecheteux avec un tréma, La tragédie hongroise, aux éditions Auray, qui me semble vraiment un bouquin de référence sur ce sujet. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission également sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook. À la technique aujourd'hui, De Phare Guéride et Jean-Philippe Jeanne, Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez, et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Puis je vous rappelle le mail de l'émission, daniel.mermet@radiofrance.fr.
Autour de nous, de nombreuses personnes sont touchées par le cancer, par la maladie d'Alzheimer, par de graves problèmes cardiaques. Comment faire pour combattre toutes ces maladies ? Moi, j'ai choisi de donner à la Fondation pour la Recherche Médicale. Elle s'investit dans tous les domaines de la recherche. Elle sait où sont les besoins.
Depuis plus de 60 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale agit pour le développement d'une recherche de pointe au service de tous les malades. Parce que toutes les maladies doivent bénéficier de la recherche, faites un don à la Fondation pour la Recherche Médicale sur frm.org.
16h sur France Inter, on se retrouve demain à 15h pour la basse, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Yann Gallic. Salut.
Des prisons surpeuplées et déshumanisées, des fouilles humiliantes et systématiques, des droits sociaux à minima. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de détention dans notre pays. Le contrôleur général des prisons a présenté aujourd'hui son rapport annuel. Jean-Marie Delarue dénonce également les problèmes de réinsertion. Les détenus ont de plus en plus de mal à travailler et sont souvent sous-payés. C'est l'histoire de deux salariés licenciés en 2008 pour avoir critiqué leur hiérarchie lors d'une conversation sur le réseau social Facebook. Ces employés travaillaient pour l'entreprise Alten, une société de conseil. Mais pour la cour d'appel de Versailles, ces licenciements n'ont pas de cause réelle et sérieuse. Les deux salariés en question avaient déjà été mis à pied avant de quitter la société, contraints et forcés. Les juges ont donc estimé qu'ils ne pouvaient pas faire l'objet de deux sanctions successives. L'ambassadrice syrienne à Paris, convoquée au Quai d'Orsay, Alain Juppé demande l'arrêt immédiat des bombardements en Syrie. Le ministre des Affaires étrangères réclame un accès sécurisé et médicalisé pour aider les victimes de Homs, la ville symbole de l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Homs où deux journalistes sont morts ce matin, le photographe français Rémi Hochlik et l'américaine Mary Colvin, correspondante du Sunday Times. Ils ont été tués dans un centre de presse visé par un obus et des tirs de roquettes. 13 civils sont également morts dans cette attaque. De son côté, le gouvernement syrien accuse les Occidentaux et les insurgés d'être responsables de la dégradation de la situation sanitaire dans le pays. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak a refusé de s'exprimer aujourd'hui lors de la dernière audience de son procès. Hosni Moubarak, son ancien ministre de l'Intérieur et quatre responsables de la police sont accusés de complicité de meurtre. Début 2011, 850 manifestants ont été tués au cours de l'insurrection populaire sur la place Tahrir au Caire. S'il est reconnu coupable, Hosni Moubarak risque la peine de mort. Une décision sans précédent. La Commission européenne vient de geler une aide de 500 millions d'euros pour la Hongrie. Le versement de cet argent devait se faire l'an prochain. Une aide financière prévue dans le cadre du fonds de cohésion qui doit permettre aux pays les moins développés de l'Union de rattraper leur retard. La Commission européenne estime que la Hongrie n'a pas fait assez d'efforts pour réduire son déficit public. Il n'y a pas qu'en France qu'on manifeste pour défendre les retraites. En Chine aussi, des centaines de retraités ont bloqué les rues de Yichang, dans le centre du pays. Ils protestent contre le montant de leur pension. Ces ouvriers ont travaillé à la construction du barrage des Trois Gorges sur le fleuve Yangtze. Un ouvrage colossal achevé en 2005 et qui a coûté plus de 37 milliards de dollars.
Les couleurs musicales d'Inter. Anne.
heures de programme musical non-stop.
Les 80 nouveautés du moment, sélectionnées par France Inter.
À l'heure où mon premier amour tombait dans mes bras, j'avais toute la vie devant moi.
Les couleurs musicales d'Inter.
En partenariat avec Deezer.
À écouter dès maintenant
sur franceinter.fr.
France Inter.
La différence.
Il est presque 16h04 et je vous laisse avec Frédéric Lodéon, Carrefour de Lodéon. Bonjour.
Bonjour Yann.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Éric Satie a dit « Plus je connais les hommes, plus j'aime mon chien ». Et ben justement, il y a un film qui vient de paraître, là, c'est un documentaire, sans aucune bande son, si ce n'est les petits oiseaux, et puis les petits courants d'air qui sont dans les feuilles, et des mugissements, oui, c'est sur des vaches dans le bocage normand, ça s'appelle Bovine, et c'est d'Emmanuel Gras, un film d'1h04, et tout le monde s'en est entiché, peut-être parce que en ce moment, les coups en vaches, les coups en traîtres, les pauvres vaches, elles sont pas si méchante que ça, ben ça, ils volent bas hein, avec les élections qui approchent. On sait bien que effectivement, on serait plus tranquille à la campagne. Et la campagne a toujours été appréciée. Autrefois aussi, on y retrouvait un peu de sérénité. Ludwig van Beethoven a écrit des contredanses, rien à voir avec les petits papillons qu'on met sur nos pare-brises. C'est country dance, tout simplement. C'est l'Angleterre qui nous a donné cette formule. Donc danse campagnarde. Deuxième contredanse de Ludwig van Beethoven par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Lorin Maazel. Lorin Maazel n'est pas né à la campagne, mais à Neuilly-sur-Seine. C'est un chef d'orchestre américain, malgré tout. Et petit-fils d'un violoniste russe émigré aux États-Unis, qui avait été d'ailleurs premier violon au Met, au Metropolitan Opera de New York. Il a commencé ses études de piano et de violon à l'âge de 5 ans. Et puis il a abordé la direction d'orchestre avec un très très grand succès, puisqu'il a dirigé à 9 ans déjà un orchestre d'étudiants en public, etc. C'est-à-dire la carrière après est énorme, bien sûr, jusqu'aujourd'hui. Et on va entendre, si vous voulez bien, une autre pièce dansante, puisque c'est le final. Ça tient un peu de la tarentelle, de la saltarelle du sud de l'Italie. Le final, Presto Vivace, la troisième symphonie de Franz Schubert, toujours dirigée par Lorin Maazel.